meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir et soyez les bienvenus au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et c'est la causerie qui démarre en direct, comme quasiment tous les dimanches. Et même que ce soir dans les studios, on a à la technique Clara.
Bonsoir.
Et autour de la table avec moi, Jean-Yves.
Bonsoir et Fab.
Ben bonsoir. Et si tu veux nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Et si tu veux aller sur les blogs de Radio Canu, tu vas à blogs avec un s. radiocanu.org/lacauserie. Parce que là, tu trouveras la causerie. Ou sinon, tu vas sur radiocanu.org et tu trouveras toutes les émissions de Radio Canu. Cette radio autogérée, sans salariés et où tout le monde fait de la radio bénévolement. Et sinon, on est aussi sur un espace socio-commercial qui s'appelle Facebook, sur lequel tu ne nous laisses pas de messages parce qu'on ne répond pas. Et sinon, ou rarement, quand on les voit.
Non, on voilà. répond quand même.
On répond, mais des fois, on ne les voit pas tout de suite. Il faut être très honnête. mais par contre, on répond aux mails et aux blogs sans problème. Et sinon, on est aussi sur tous les outils de podcast, balado, diffusion, comme on dit maintenant. Et donc, si tu ne nous trouves pas, par contre, sur ton outil de podcast préféré, n'hésite pas à nous envoyer un petit message qu'on vérifie pourquoi. Parce que normalement, on est partout. Bah voilà.
On est partout.
Bah oui, c'est bien, quelque
mais
part.
Oui, et puis ça atteint, enfin, c'est toujours dans les continuités de notre objectif.
Oui, et d'ailleurs, je m'étais amusé comme je le fais tous les 5 ans, donc dans notre conquête du monde et de l'univers.
Oui, de l'univers. Le monde, c'est un petit peu petit.
Voilà, la première émission de la causerie émise sur le 102.2 de Lyon, partie vers l'espace, comme toutes les ondes radio, ouais. Atteint à peu près aujourd'hui la planète Mars. Donc, ouais, c'est pas mal, quand même, quelque part.
Ça avance.
Et en plus, j'ai ça totalement au pif parce que j'ai pas du tout fait le calcul. Mais bon, bref, on va démarrer cette émission.
Alors, si tu es un astronaute.
Ouais, si quelqu'un peut nous faire le calcul et nous envoyer la réponse, on est preneur. Où est la première émission
C'était surtout pour te corriger que je disais ça.
Oui, mais oui, tout à fait. Bah oui, il faut. Et donc, du coup, Jean-Yves, on va commencer par toi. Et ce soir, c'est une émission très actu, toi et moi. Et donc, du coup, tu voulais nous parler de deux actualités qui t'ont un peu irrité, on va dire ça comme ça.
On peut dire ça, en tout cas, faire réagir.
Alors, l'euphémisme.
Je préviens, il fait très chaud,
oui.
On est un peu fatigué, donc on essaie de tenir la route vraiment, mais c'est pas toujours facile.
Mais il fait vraiment très chaud.
Des fois, il y a de la bouillie dans la tête. Alors, Fab nous a parlé la semaine passée de la soi-disant action laïque, c'est-à-dire qui protégerait la laïcité ou qui serait l'application de la laïcité, on ne sait plus trop vraiment, en fait, à savoir l'interdiction de la baya et du kami. Vous savez peut-être ou pas que la loi sur la fin de vie devait être présentée le jeudi 21 septembre.
Là, tout de suite, enfin,
vous...
dirons-nous.
Oui, c'est ça. Là, vous ne voyez pas forcément tous les liens que je fais depuis le début, mais ça va venir. Elle comporterait, selon les fuites, 3 volets, à savoir les soins palliatifs, le droit des personnes et l'aide active à mourir. on pourrait presque dire qu'on avance peut-être. Mais il faut vraiment...
Il faut après qu'elle soit votée. Hein,
oui, non, mais c'est pour ça que je dis bien le peut-être. Et selon la ministre en charge du texte, une certaine Agnès Firmin-Lebaudeau, c'est là que je me suis rendu compte en faisant mes recherches que je la connaissais absolument pas.
Comme à peu près les trois quarts des ministres.
Ouais, c'est, ouais, c'est...
Ils sont très bien payés, mais on ne les connaît pas.
Ben ouais, c'est bizarre. Le texte pourrait donc être débattu au Parlement début 2024. Et question tout de suite là, qui c'est qui n'aime pas vraiment causer fin de vie, euthanasie, suicide assisté?
L'Église.
Mais oui, oh là là, c'est pas du tout préparé. Hein.
Les religieux.
En plus, c'est vrai, c'est pas préparé. Vous savez ce qu'on on parle, mais c'est pas préparé. Les religieux, bien sûr, évidemment. Et c'est justement parce que la France est un grand pays laïque que le pouvoir politique a décidé de repousser la présentation de la loi sur la fin de vie en raison de
du concert de Jules.
Non.
Pourtant, ça se passe à Marseille.
C'est vrai, ça se passe à Marseille, mais en fait, c'est en raison de la visite du pape à Marseille le 22 et 23 septembre, au grand dignitaire républicain. Enfin, je sais pas, j'essaie de constituer un puzzle.
Avant que tu continues, je voulais m'excuser, je viens de faire un parallèle entre le pape et Jules, et Jules est beaucoup plus sympa que le pape.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est dégueulasse de ma part.
C'est vrai. Et je pense qu'il a moins de moula que le pape. T'as vu ou quoi ?
Ça, c'est vrai.
Alors, une mesure de bon sens, selon une source au sein de l'exécutif, d'ailleurs, des responsables de l'exécutif, du pouvoir
En gros, des proches de Macron, quoi.
C'est ça. Ont estimé que ce serait une mauvaise manière faite au pape de présenter ce projet de loi la veille de son arrivée.
Et pourquoi ?
Parce que
non mais c'est vrai ce que tu dis, c'est hyper troublant parce que
oui,
on a quand même donc un ministre Gabriel Attal qui pour 0,00005% des élèves nous a fait un foin sur toutes les chaînes pour nous expliquer que là on allait tous mourir et que la laïcité était en danger. Ouais. Et donc là on a l'empapa outé qui arrive qui dit tiens bonjour, je vais venir à Marseille, qui en plus a dit ce n'est qu'une visite à Marseille et pas à la France.
À la France.
Puisque lui il dit non, c'est pas la France. Et là, on se dit, oh bah allez, dans un pays laïque, on va quand même tenir compte de ce cher pape pour savoir quand est-ce qu'on pose notre
tour. La France, ex-fille aînée de l'Église, comme ils aimaient à l'appeler, avec un jésuite à la présidence et de nombreux cubénis quand même au gouvernement, sont toujours quand même sensibles à ne pas heurter la secte vaticane.
Les autres, ils peuvent, a priori, mais là,
une nouvelle démonstration, selon moi, que la laïcité est quand même vachement mal défendue, j'ai envie de dire, quitte à l'instrumentaliser quand ça arrange les politiques.
Mais s'ils étaient ultra laïcs, comme ils le disent là depuis une semaine, au contraire, ils auraient maintenu. Ça aurait permis de dire à l'Église catholique,
c'est-à-dire,
ta gueule.
Religion n'a...
C'est une loi d'État, donc ta gueule, quoi.
Ah ouais. Voilà. Ce qui fait peut-être penser que...
Ils sont pas très laïcs, on est d'accord.
C'est peut-être ça, en fait. Le problème, c'est peut-être pas la laïcité, c'est ceux qui la desservent, en fait, quoi, et s'en servent. Ce qui était beau aussi, et très drôle, en fait, quand j'ai trouvé cette info, c'est parce que c'est sorti du Figaro, grand journal de droite.
Voire presque d'extrême droite.
Oui, en tout cas, dans une période...
Bien à droite.
Je crois que dans une période, ils ont bien collaboré, je crois. Non
Alors, pas tout à fait. Parce que c'était pas eux, c'était l'Aurore. Mais enfin, bref,
on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, mais là, c'est pas le sujet, quoi. Et l'article, en fait, c'était aussi très drôle, en fait. Déjà, savourez le titre, Le pape fait retarder, entre parenthèses, de très peu, la loi sur la fin de vie. Genre, en fait, c'est pas grave, quoi. On va pas en faire tout un fromage, parce que la France est un pays de fromage. Voilà.
Ok. On s'arrête au fromage est-ce que tu peux passer au dessert, s'il te plaît ?
Et donc, je me disais, imaginez quand même le même Figaro, vraiment tout pareil, si à la place du pape, on parlait d'un responsable d'une autre secte.
Ouais, genre l'imam machin.
L'imam machin.
Ou le rabbin
le rabbin de je sais pas qui.
Là, ça aurait sauté.
Aurait sûrement, effectivement, brandi l'argument de.
La laïcité.
La laïcité, enfin. Là, c'est marrant. Bon, c'est pas grave. Bref, je me disais, c'est un beau pot pourri. Oh là là, ça fait beaucoup de haut. Pardon.
Il y a une deuxième info après.
Un beau pot pourri de raclure, hein, instrumentalisant la laïcité pour toujours mieux pouvoir lécher le clergé. Et ça, ça, c'est une tradition qui ne se perd pas non plus en France. Hein. C'est quand même un truc assez constant. La capacité des pouvoirs politiques. Bah, toujours à lécher le clergé, quoi. Je suis désolé, hein, c'est un peu vulgaire pour ceux qui n'aiment pas lécher, mais c'est un fait, quoi. Bref, hein, je me disais, bah, ça sera vraiment quand même, hein, sans Dieu, sans maître, sans État, sans patrie, qu'on pourra espérer s'épanouir et être heureuse et heureux, hein, sans que tout ça vienne, enfin, vienne s'immiscer dans nos vies, quoi. Parce que quand même, je trouve que c'est complètement fou, quoi. On veut pas froisser un dignitaire religieux.
Mais moi, je voulais
dans un pays où on interdit l'abaya.
Bah oui.
L'impression d'être dans une cinquième dimension, parce que d'ailleurs,
j'attends le moment où ils vont vous mesurer la longueur des barbes. Ça va venir, ça. Ouais, attendez. On va y venir, ça. Enfin, ouais. Bon, et tout ça quand même pour dire que je voulais quand même saluer le courage du pape qui en tant que plus grand dealer d'opium du peuple vient dans la cité où tout se règle à la calache. Franchement, donc attention, votre plus grand votre plus gros revendeur en ce moment, il porte du blanc. Voilà, sachez-le, moi je n'incite à rien.
Un gros baron, quoi.
Juste, c'est un gros baron d'opium du peuple. Faut le savoir.
Ça, c'est sûr.
Donc voilà, bref.
Pour ceux qui n'auraient pas compris, religion, opium du peuple.
Oui,
tout ça,
voilà.
Tout ça.
Mais c'était de l'humour, hein, parce que oui, après on va se prendre des trucs. Oh, voilà. Et donc du coup après
et donc du coup je me suis dit tiens c'est... et si je passais à autre chose
et tu t'es dit pour se pendre parlons des arbres.
Oh non c'est plus non ça
non
c'est...
je plaisante,
c'est très beau les arbres, il y a des oiseaux dedans, enfin tout ça, bref,
reboisons.
Ouais, c'est ça. Vu qu'on est en période de rentrée, hein, oui, parce que en France, bon, faut croire qu'on est toutes et tous des élèves de quelque chose. On sait pas de quoi, mais c'est la rentrée, quoi. Et donc, c'est le moment que le président a choisi pour s'adresser aux jeunes, entre guillemets, parce que les jeunes, c'est toujours très compliqué. Hein. Vous savez que j'aime pas beaucoup les grandes catégories. En donnant une interview à Hugo Décrypte le 4 septembre. Alors, si plusieurs sujets ont été abordés et qu'ils mériteraient vraiment tous d'être détaillés, critiqués, je vais ce soir, moi, m'arrêter sur un seul de ces sujets, à savoir la reforestation. Enfin, plutôt la plantation d'arbres. Parce que, selon les spécialistes, c'est pas vraiment des forêts, des plantations. Donc, lors de cette interview, hein, Macron a déclaré qu'à compter de cette année, écoutez bien, hein, parce que là, il y a du projet. Qu'à compter de cette année, chaque élève qui rentre en sixième devra planter un arbre. Enfin, une nuance. Je le cite encore. Hein, on n'arrivera pas à le faire pour l'intégralité des sixièmes, mais si on a chaque génération qui plante son arbre, ils vont nous aider à aller vers notre milliard de reboisements. Alors déjà, on peut se dire, la nuance est drôle, quoi. Hein, parce que passer de chaque élève de 6ème
à
chaque génération, c'est pas le même ordre de grandeur quand même. Et je me disais, c'est un président qui manque d'ambition, quoi. Non ? Vous trouvez pas ? Non, moi je pense qu'il doit avoir des.
Mais surtout, c'est de se dire que le gars, il vient faire une annonce qui s'est fausse.
Oui !
C'est que le mec, il arrive, il te dit, tous les élèves de 6ème vont planter un arbre, sauf qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, mais donc si... du coup, c'est pas comme ça qu'on fera. Mais c'est ridicule.
Et puis tu te dis,
c'est ridicule.
Si, bon. Ok, pas chaque élève, mais si chaque génération. C'est-à-dire qu'il va falloir des millions de générations.
Mais oui, c'est ça.
Il y a un truc qui nous pousse à très loin.
Bah
c'est-à-dire
ouais.
Le mec, il a de l'ambition, mais bizarre.
Mais pas trop.
Mais à très 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 long terme, en fait.
Ouais, parce que je sais pas combien ça fait d'élèves, les sixièmes, mais ça doit pas taper dans le million, donc...
J'ai pas
l'idée, mais...
Des centaines de milliers, ouais. Ça dépend ce que tu comptes, quoi.
Bah oui, mais quand tu veux planter un milliard d'arbres...
Jusqu'en 2032.
Ouais, il y a un sacré gap. Il hein. Ouais, faut y aller. Hein.
Ouais, je me disais, ouais, c'est vraiment ça. Quoi. S'il manque d'ambition, c'est tout. Hein. Donc, bref, Startup Nation, elle a pris un petit coup dans la tronche.
Ouais,
parce que, bon, en octobre 2022, hein, il avait promis, enfin, bon, les promesses, toujours pareil, ça n'engage hein, que celles et ceux qui y croient. Donc, il avait promis, hein, disons, qu'il avait plutôt évoqué la plantation d'un milliard d'arbres sur le territoire français d'ici 2032, mais donc en 10 ans.
Est-ce qu'on est conscient que c'est ridicule comme truc quand même ?
Principalement pour compenser les feux de forêt, ok ? Alors c'est une idée en fait qui avait déjà à l'époque hein, laissé sceptiques les associations de protection de la forêt. L'annonce, alors, je cite Bruno Doucet de l'association Canopy qui s'est exprimé aux médias reporters, il disait « L'effet d'annonce est très fort, mais en forêt, fait, il n'y a pas besoin de planter d'arbres.
Ben, ça pousse tout seul.
Les forêts étaient là avant les humains et se renouvellent naturellement. Vouloir aider les forêts en plantant 1 milliard d'arbres, ça montre qu'on ne comprend pas comment les forêts fonctionnent, en fait. Quoi. Ben,
en fait, si les forêts réduisent, c'est parce qu'on fait des champs. C'est parce qu'on enlève les arbres pour faire des champs. Si vous laissez une forêt toute seule, tranquille, s'étend, en fait. C'est le principe. C'est pour ça qu'il y a des écureuils, qu'il y a des trucs comme ça, qui vont planter des oiseaux, qui prennent des graines, qui les plantent un peu plus loin. Et puis
qui les plantent.
Oui, qui les chient.
Qui les chient. Non, mais je veux dire.
Oui, parce que j'étais en train d'imaginer l'oiseau avec cette ruelle. Je plantais ma graine. Désolé.
Il y a des groupes. Il y a des groupes de corbeaux qui disent allez,
arrête, on va pas le.
Bien
sûr, on y va. Faut pas arriver au bout de l'émission. Non, tout ça pour dire que, en fait, oui, une forêt, et les, on le voit quand il y a des maisons abandonnées, vous savez, quand il y a des maisons en bord de forêt qui sont abandonnées, en 10 ans, en fait, la forêt, elle a rebouffé la maison. C'est-à-dire qu'elle a avancé, elle, voilà. Et ça prend pas, ça se fait tout seul, c'est naturel. Et donc, c'est débile de se dire qu'il faudrait une intervention humaine autre que de laisser de la place pour qu'une forêt, elle s'étende. Voilà.
C'est ça. Bon, bah, t'as tout dit, merci.
Non, pardon, excuse-moi. Non,
attends, j'ai d'autres infos encore. Alors, en effet, en effet, les plantations d'arbres, en fait, comme disait l'expression qu'utilise en fait le botaniste Francis Allais, des champs rectilignes tracés au cordeau où la biodiversité est très limitée, en fait. Et ben, en fait, ces espaces-là sont particulièrement vulnérables aux maladies et en cas de violentes tempêtes. Ben, elles sont plus fragiles que les forêts diversifiées.
Ou en cas d'incendie, c'est ce qu'on a vu à la thèse de Buche d'ailleurs.
Ben, oui, et puis je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont pu déjà aller vers la côte atlantique, justement du côté Arcachon, etc. Ben, c'est vraiment étrange d'être face à des forêts où en fait tu vois un tronc et tu vois tout l'espace qui est entre les autres troncs jusqu'au bout. Enfin, c'est vraiment hyper particulier. Enfin,
il faut se rappeler que ces forêts, elles datent.
Moi qui ai grandi dans la forêt.
Ces forêts, elles datent d'il y a. Mais n'importe quoi. C'est pinette parce que c'est des pins. Ça date en fait de l'époque où on a commencé à faire des bateaux en France.
Et, oui.
Et en fait, il fallait que ce soit efficace. Donc on plantait effectivement tout droit, comme tu le disais, au cordeau.
Au cordeau.
Voilà. Et ça ne fonctionne pas.
Mais non, ça ne fonctionne pas.
Voilà. Mais c'est vrai en plus.
Je pense que le spécialiste, il sait ce qu'il dit. Ouais.
Oui,
mais
ce que je te disais, c'est que ça ne peut pas marcher de dire on va planter 1 milliard d'arbres comme ça. C'est ridicule. Je veux dire, on va pas avoir des champs au cordeau partout. Quoi.
En fait, le truc, il est là. Donc, si on écoute et qu'on prend les spécialistes, plutôt que de replanter des arbres, en fait, il faudrait surtout veiller, ce que tu disais, à ne pas détruire en fait les forêts existantes et les laisser croître. En fait,
ça peut aider.
C'est juste ça en fait, quoi. Il y aurait pas besoin d'un plan sur 10 ans. Non, en fait, laisser pousser. Ou alors les plans sur 10 ans, ça serait, on interdit de.
On recule, faire reculer les champs,
des forêts, etc. Quoi.
Ou on recule les champs, on reboise, on remet des bosquets, tout ça. Quoi.
C'est ça. Mais comme souvent, en fait, le pouvoir politique démontre quand même son ignorance. Et ça, c'est vraiment un truc quand même très fréquent. Et évidemment, vu qu'ils sont ignorants, ils vont chercher de l'info, mais souvent quand même du côté de ceux qui tirent profit, en fait. Hein, souvent des gros bonnets du secteur en question. Hein, je veux dire,
genre les papetiers, parce que...
Oui, c'est ça, tous ceux qui vivent, en fait, de l'exploitation forestière, quoi. Donc voilà, et parce que oui, en fait, les plantations en ligne, etc., est le terrain favori de ceux et celles qui vivent, en fait, de l'exploitation du bois. Donc, souvent le pouvoir quand même a l'habitude d'aller chercher l'information plus du côté de ceux qui exploitent et vivent d'eux que ceux qui sont exploités et vivent d'eux. Vous voyez la nuance ?
Truc de fou.
Un truc de fou. Hein.
On cherche chez les riches.
Oui, c'est-à-dire que quand les pouvoirs écoutent souvent. Alors, ils invitent les syndicats ouvriers, de travailleurs et de travailleuses, et ils vont souvent aussi écouter le MEDEF. Ouais. C'est souvent le MEDEF qui va avoir le dernier mot. C'est toujours pareil, en fait. Hein, c'est ceux qui possèdent qui sont écoutés, quoi. J'essaie de retrouver mon truc. Hein. Alors oui, alors évidemment que cela existe, l'exploitation forestière, pourquoi pas. Enfin, toujours mieux que d'aller détruire finalement des forêts sur le continent africain ou ailleurs, comme dans les pays baltes par exemple, Lettonie, Lituanie, Estonie. Enfin, je vous invite vraiment à fouiller un petit peu parce que là-bas, c'est un peu la merde parce que la forêt est tellement exploitée que ça devient vraiment très compliqué. Même si cela est toujours aussi à mettre en lien avec la société productiviste et capitaliste dans laquelle on vit, en fait, quoi. Je veux dire, c'est aussi le fruit d'une société, d'un système économique et politique dans lesquels on vit. Hein. Donc, je vous résume, c'est offre, demande, consommation, destruction, profit, etc. etc. Et c'est un peu un cercle qui continue, enfin un cercle fermé. mes pensées.
Un cercle ouvert, c'est une ligne.
C'est vrai, c'est idiot ce que j'ai dit. Je m'en excuse.
C'est un cercle vicieux, mais pas. Voilà.
C'est ça. C'était ça. Mais vicieux, j'aimais pas ça. Enfin bref. Mais penser que l'État se soucie des forêts dans le seul objectif de les préserver, de les faire grandir, en faisant abstraction de tout ce qui a été dit précédemment, je pense que c'est se tromper. Et pas qu'un petit peu, en fait. Hein. Parce que si le pouvoir politique se souciait vraiment de la préservation des forêts, est-ce qu'on le retrouverait à soutenir, par exemple, hein, c'est un exemple, le projet d'autoroute Toulouse-Castres, qui en plus de faire toujours plus de place à la bagnole, bah, veut aussi dire abattage de centaines d'arbres adultes le long du projet.
Ouais, et pas n'importe quel arbre, parce que c'est des platanes centenaires même. Enfin, je veux dire, c'est des arbres qui sont très efficaces en termes de CO2.
Oui, c'est ça. Et puis toi, tu en avais déjà parlé, je crois, une fois dans un sujet, c'est qu'en fait, un jeune arbre.
Il capte moins qu'un vieil arbre.
Bah oui, en fait, c'est une histoire de taille.
Bah oui, en plus de canopée, justement.
Oui, oui.
ils voient pas ta tête, les auditeurs.
Mais non, mais c'est un sort.
Même Clara, elle me dit oui, c'est vrai. Hein, bon.
Non, mais je confirme.
Mais par contre, ce qui est, en plus, cette autoroute Toulouse-Castres, là, il faut se rendre compte qu'on est en train de faire une autoroute, qu'on est en train d'exploser des arbres, machin et tout, qu'on va déplacer on va passer sur des zones marécageuses, alors qu'il n'y a plus de zones humides en France, hein, quand même, ou de moins en moins. Le tout pour gagner, en tout et pour tout, 7 minutes. Alors, moi, je ne sais pas quel humain sur cette planète n'a pas 7 minutes. Parce que s'il n'a pas 7 minutes, il faut vraiment qu'on change sa vie, parce que ça ne va pas, quoi.
Ah, ça, ouais, c'est un peu le problème.
Non, mais c'est dingue.
C'est que, oui,
pour
oui,
gagner
c'est...
7 minutes, quoi. On est en train de faire une autoroute pour 7 minutes.
Une course en avant.
C'est un truc de fou, quoi.
Et donc, si cet État, hein, qui est censé nous protéger, nous servir, enfin, tout ça, s'il était vraiment pour la préservation de la biodiversité, des forêts, tout ça, est-ce que le pouvoir soutiendrait le rasage de la forêt amazonienne en partie en Guyane pour une mine d'or? Question, hein, comme ça.
Tout en engueulant le Brésil parce qu'il y avait de la forêt amazonienne qui était rasée.
Oui, Bolsonaro, c'était pas bien.
Voilà. Mais Macron, c'est mieux.
C'est mieux. Pourquoi? Parce que. Ok, c'est la réponse à toutes vos questions. Parce que. Est-ce qu'on retrouverait le même pouvoir politique, soutenir le rasage de forêts, toujours en Guyane, pour une centrale photovoltaïque? Et d'autres choses, évidemment. Sans oublier ce que je voulais dire, la volonté d'accélérer l'installation de nouvelles centrales biomasse en Guyane et permettre l'essor des agrocarburants, notamment du secteur spatial, au détriment de la préservation de la forêt amazonienne. Mais surtout, n'oubliez pas,
Planter des arbres.
Alors évidemment, le pouvoir politique national et en partie local va nous parler de cet éternel truc, l'emploi, l'énergie, etc. Mais en fait, tout ça, ça se fait au détriment des populations locales et de la biodiversité. Donc c'est-à-dire que là où ils disent qu'ils veulent protéger quelque chose, quelque chose, et donc les humains, en fait, ils font tout le contraire. Enfin, en fait, on a l'impression d'être dans un truc qui n'a ni queue ni tête, mais c'est le réel.
C'est ce qu'on appelle la notion d'orwellisme ou de message orwellien. C'est-à-dire, la guerre, c'est la paix, tout ça. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a des politiques qui, d'un seul coup, font semblant de s'agiter pour dire on est en train de faire quelque chose. Et en fait, quand on regarde concrètement les choses, avec notamment des scientifiques, des gens dont c'est le métier, qui disent attendez, nous, on a des solutions, mais c'est pas trop celle-là parce que ça marche pas. En fait, on va aller les faire taire. Moi, j'ai vu qu'il y avait Béchu, je crois, c'est ça, le ministre de la Transition. Oui. Monsieur Gel, c'est le dernier qui met encore du gel pour se coller les cheveux comme ça, mais en fait, lui, il est arrivé à la télé, il a dit oui, il y a pas de consensus scientifique, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont répondu si, en fait, on a un consensus scientifique. Il y a quelques scientifiques qui disent.
C'est ça, en fait, ils pensent que le consensus, il se fait.
Le consensus, il se fait jamais à 100%. Il se fait, un consensus scientifique, c'est 90-95% des scientifiques qui estiment que c'est une bonne solution ou une mauvaise solution. Et là, en fait, ils s'appuient sur 2-3 uberlus qui sont là à dire faut replanter des arbres, ça va nous sauver, machin et tout. C'est le fameux truc de la compensation carbone qui ne fonctionne pas du tout. Il y a une étude qui a été faite par une association, je ne m'appelle plus son nom, internationale, crois que c'est Oxfam qui avait fait le calcul, qui disait qu'en fait, si toutes les compensations qui étaient achetées, soi-disant pour voler, machin et tout, en fait, il fallait couvrir deux fois la surface terrestre actuelle d'arbres pour arriver à planter le nombre d'arbres qui avaient été soi-disant compensés. On est dans un truc complètement débile. Ouais, et en fait, quand on remet de la raison en fait dedans, et ben là, tout de suite, le ministre il vient invalider en disant, bah non, ce scientifique, c'est un peu un agité du bocal ou un truc comme ça. C'est ouf, quoi. Et on est vraiment dans ce truc très orwellien où en fait, on vous dit, ce qu'on vous dit, c'est vrai et vous n'avez pas le droit de le contredire. Et surtout, planter des arbres, ça va sauver la planète. Ben non, ça marchera pas en fait.
Ben c'est ça en fait. Et concernant la centrale photovoltaïque, par exemple, certaines assos locales ne sont pas forcément opposées. Parce que oui, c'est un autre truc, c'est il faut de l'énergie. Alors on peut discuter, hein, on est toujours dans le cadre de société productiviste, etc., etc. Sauf que
si vous avez mis déjà les pieds en Guyane, il y a un vrai besoin.
Merci.
Je suis jamais allé, mais par contre, je connais des gens qui viennent de là-bas. Quand on vous explique qu'il y a 2 heures d'électricité par jour dans certains quartiers, c'est pas voilà.
C'est tout le truc. Sauf que en fait, ces énergies disent bah, si cela doit se faire en rasant les forêts. En fait, il y a une sorte de contresens, en fait.
Il y a d'autres moyens, sans
doute. Et en fait, bah, certaines assos en fait, avancent le fait, par exemple, bah, d'utiliser bah, des espaces qui ont été créés par et pour l'orpaillage illégal, qui ont été démantelés. Et en fait, ce qui fait des espaces où en fait, il n'y a plus de forêt.
On n'a qu'à s'installer là.
Bah, en fait, c'est ça ce qu'ils disent. Bah, là, à la rigueur, prenez cet espace-là, parce que de toute façon, il est déjà abîmé. Donc, allez-y, en fait. Mais n'allez pas raser, en fait. Donc, voilà. Hein, donc. Je vais quand même finir parce que l'heure avance, en tout cas les minutes. Alors quand le président libéral vous parle de préservation des forêts, de la biodiversité, etc., je vous invite vraiment à creuser, à fouiller et à ne pas en rester en fait à leurs promesses, à leurs déclarations. Et il faut essayer de les confronter à la réalité en fait. Alors il ne s'agit pas d'aller voir la Macron et débattre avec lui avec des trucs, mais c'est se forger nous-mêmes en fait de la critique quoi en fait, c'est ça, et de la critique qui s'appuie aussi sur du matérialisme en fait quoi. Pas juste dire c'est pas tchamama, il faut pas toucher à la terre, moi ça c'est un truc ça a pas de sens.
Non c'est
mais apporter,
il y a des moyens de faire sans trop heurter et en fait enfin sans trop impacter plutôt que heurter. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'écoute pas ceux qui connaissent ces outils pour éviter justement de trop impacter, parce que on va être très clair, moi je le dis, l'être humain impacte, c'est le principe.
Nous
on est dans un studio de radio là, vous voyez, qui a été construit en béton, qui émet sur des ondes voilà, avec des matériels qui ont été fabriqués avec des métaux rares pour certains, voilà. Tout ça, c'est une réalité. Oui. L'être humain, ça impacte. On va pas arrêter de croire qu'on pourrait être à zéro impact, c'est pas vrai. Par contre, on peut réfléchir à comment, où, est-ce que oui ou non c'est utile, et surtout, est-ce que oui ou non on va continuer sur cette lancée folle, ou est-ce qu'on peut se dire, on peut quand même ralentir un petit peu certaines choses, faire autrement, réfléchir à d'autres outils et d'autres moyens, voilà. Et ça c'est de vraies interrogations, et c'est là qu'il faut mêler politique et science, et arrêter de penser que bah, les scientifiques servent à rien ou que les politiques ont raison sur tout, quoi. Ça, c'est un peu couillon, quoi.
Bah, c'était ça en fait, c'était ça ce que je voulais finir en disant, justement ça, c'est de faire toucher toujours cette notion de critique, de creuser, etc. Bah, histoire de ne pas prendre pour argent comptant, hein, en fait, hein, les déclarations des politicards qui, eux, ont bien d'autres idéaux et surtout d'autres ambitions, hein, que de sauver le monde, sauver la biodiversité, sauver bah, l'humanité, en fait. Hein, parce que je vous rappelle que tout ça, c'est quand même...
Oui, la planète, elle s'en remettra.
Hein. La planète s'en remettra. Hein, le caillou, tout ça, c'est la verdure, tout ça, ça marche, en fait.
Elle a connu 5 extinctions, la Terre, ça va.
C'est pour se sauver, nous, un petit peu, en fait. Hein. Donc, bah, et justement, en fait, ils ont d'autres ambitions, en fait, hein, que de nous permettre de mieux respirer et de favoriser la biodiversité, justement. Donc, voilà, alors, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais c'est juste, ça fait partie de ces déclarations. Tu te dis, mais arrêtez, en fait. Enfin, c'est que des fausses bonnes idées. Enfin, il y a vraiment quelque chose de ça, et on ne prend plus de pas de recul pour se dire, mais attends, oui, lui, il a cette lecture-là parce qu'il est aussi dans sa position idéologique. C'est-à-dire que lui, il n'imagine pas sortir d'un capitalisme. Hein, souvenez-vous, on ne va pas revenir au temps des Amish. Comme si, en fait.
Il y a de l'écart entre tout ça.
C'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas le choix entre exploitation à tout va de l'humain et de la nature et le temps des Amish. Quoi. Tu dis, bah, tu ne nous prendrais pas un petit peu pour des idiots. Et je crois que si.
Moi, je vais juste te dire, et parce que ça rebondit sur ton sujet, j'ai été effaré et vraiment j'ai flippé d'entendre le ministre de la Justice Dupond-Moretti faire une leçon sur la désobéissance civile.
Je pensais un jour y revenir là-dessus.
Et oui, non, on fera peut-être un sujet plus large, mais je tiens à dire que c'est très grave quand il y a un faisceau qui commence à se mettre en place entre un président qui raconte n'importe quoi sur un sujet, c'est ce que tu viens de décrire, un ministre qui vient expliquer que les scientifiques sont tous des couillons et que les militants écolos sont tous des cons, et un ministre de la Justice qui vous dit en fait la désobéissance civile, moi je vais l'écraser. Ben en fait, quand on en est là, je suis désolé de le dire, mais ça s'appelle le pré-fascisme, hein, c'est, voilà, et qu'à un moment donné, il va falloir peut-être se réveiller, parce que quand on va rentrer, basculer dans le fascisme, clairement, là, on va se demander ce qui nous arrive, mais là, en fait, on commence à être dans quelque chose qui est un état ultra-autoritaire et qui se permet, en fait, à un moment donné, d'interdire des luttes. Et là, en fait, c'est pas anodin. Voilà, on en a déjà parlé pour Sainte-Soline et autres, mais juste je voulais dire quand même le discours de Dupond-Moretti qui est passé sans quasiment aucune critique, et c'est ça qui moi m'a le plus surpris.
Il y a plusieurs sorties du Dupond-Aignan qui sont un peu sorties comme ça, personne n'a pas.
Ouais, et je me dis, il y a quand même un moment là. Et je voulais faire une deuxième parenthèse, je voulais saluer Hugo Décrypte parce que j'ai regardé une partie de l'interview, et si tous les journalistes avaient autant de cran que lui, il n'était pas mauvais. Alors, on va être très clair, hein, je vais pas dire que c'était un mec génial ou quoi que ce soit. Par contre, il a tenu sur beaucoup de sujets, il est allé au bout, et on sent d'ailleurs Macron en face qui est plutôt agacé parce que il lâche pas, il ramène des chiffres, il pose des trucs. Plusieurs fois, il dit la science dit l'inverse de ce que vous me dites, vous voyez. Oui. Donc il lui dit d'ailleurs, il dit mais non, le rapport du GIEC sur lequel vous êtes appuyé, en fait, vous me dites l'inverse de ce qui est écrit. Et Macron, voilà, essaye de se rattraper comme il peut, comme fait Macron, hein, tout à chaque fois. Et j'ai trouvé intéressant d'avoir un jeune qui est très connu sur YouTube et qui fait plutôt du bon boulot globalement, et qui quand même a tenu un rôle de journaliste, enfin journalistique, plutôt intéressant. Et voilà, je voulais juste te dire, parce que ça fait un peu taire, moi je trouve, tout cet espèce de truc de tout ce qui se passe sur les réseaux c'est de la merde. C'est pas vrai, il y a des gens qui font des trucs de très bonne qualité, et même si je suis pas d'accord avec tout ce que fait Hugo Décrypte, là j'ai trouvé qu'il avait été plutôt bon.
Voilà. Ouais. Et puis de toute façon on peut retrouver Radio Canu et la causerie sur les réseaux, donc ça serait con de dire que les réseaux c'est de la merde. Enfin, de toute façon oui, c'est des sujets qu'on pourrait continuer de creuser. Parce que oui, il y a plusieurs déclarations comme ça, tu dis, mais en fait, la désobéissance civile, c'est ce qui fait avancer l'humanité, en fait. Hein.
C'est quand même la base de tous les combats émancipateurs.
C'est ça. Hein. Bon. Enfin, bon, on va pas faire la fête à Dupond-Moretti ce soir, non, mais ça viendra.
Mais on va refaire un jour un truc de fond là-dessus.
C'est vrai. Eh bien, allez, on va peut-être arrêter de construire une prochaine émission. On va passer à la musique. Hein, on fait ça? Allez, on y go. Hey, fin nga fed dila sul, ya fida karab yow ya manu dul, kusha may khale bi fi gëna cool, te duggu len forse toñ dans ni tour, tere le nelo sen xese li ñuul, gatsa ku ñew jëre fur, bi sa la menu reyi te yo bo len tax na rab digen bi de mul, ya pa te mu no ma tour londam, fax ni guuy mu no len mag gëssam, tout le temps magi innover, yeen sen projet yi rar ni guuy wëcco gërem, ke len sama loxo jéeg ak gërem, man may or yeen get ay pour war ngeen ma gërem, yéegal niveau bi ma dekké te déggo mo tax sërem, dama ñew xam ba tal bi ne koñ bek tal bi yok ko ambiance bi de giñ tek ko ci temps bi duggal sa kaay yi nangu sa gang bi def leen ay fan bàyyi leen ak vent bi nangu seen faar yi ngeen dëggee di xooy din biit ak nàpp woman of the year classe ma ma lekk say fan effet pour ma yeb dama fekk may nelaw ki di génnee seen gém bi ne selaw nama ngeen couron bi ma nangu ci yéen te doo leen ko dégg mu ne maa la raw sa xol bu dee bon naanal sa xew xel buy tee nga la lekkal keew fi may xool mu noo ko giis romb la gisoolu dul sama ngelaw hey yo gatsa MC bu gaañi si soo bi ne ko masa Hey yo, gatsa MC bu gagne si son bine ko Masa AK-47 lay composé Sama ancre si lave lay jugé King Vic konyo bande y lay mixé Sinyo produit day électrocuté Tegel ma yi eat Projet bi pare na dit it Amna ay fit du wiki Bir agriculture pikin Benga namo music go bax bi Bindu yu tay di Qualité quantité bu doy bi Tem yu rari Image yu nice Put ma may le mixtape bax bi Mayna ko wi yares Mayna ko ni ci dap Mayna ko sama famille agriculture Tax lepp yomb Tax ngeen ma gëna xam sama bo Tax ngeen ma gëna xam li ma doon Leral ngeen ma ci sama yoon ba dara du dara te lepp dox Omar Abu Zenit Salo Gari la Kamas Jaja Trish Mustaf Kumba King Moïsa Metto Dix Kuso Mako Si Chanel Prince Matador Digi Digi Veli Kesh Die Fula Ablo I'm Kano Best Freestyler Amba Abu Bakr Big Up La Hat Argo I see you man Munu Malim Nyapu Waaah Ouais. Eh ben ouais, vous êtes toujours à la causerie sur le Radio Canu, sur le 102.2 de la bande FM et sur radiocanu.org. On vient de s'écouter Maggie, c'est une rappeuse du Sénégal avec le titre Gatsa. Et il y a une mixtape qui devrait sortir, je crois, assez prochainement. Je vous invite vraiment à l'écouter, elle a certains titres qui sont pas mal du tout.
Et elle chante en
Je pense que c'est du Wolof.
Ok.
Mais j'en ai pas la certitude.
D'accord, ok. Non, bah pardon.
Mais je pense. Ah, je, cas, si je pense.
C'était un bon flow.
Ouais, moi j'aime beaucoup. Bien. Et ben, c'est Fab qui va prendre la suite.
Oui.
Et charité bien ordonnée commence par.
Ben voilà, tout le monde connaît cet adage, hein,
évidemment.
Voilà, par soi-même, généralement, derrière.
C'est ça.
Alors, on va parler d'abord d'une réalité assez terrible. Hein. Il y a quelques jours, vous vous souvenez, le dirigeant des Restos du Cœur poussait un coup de gueule et d'alerte pour dire que son association manquerait rapidement de moyens. Dans le même temps, le Secours Populaire rappelait qu'il n'avait jamais eu autant d'inscriptions et qu'il voyait donc la pauvreté exploser dans notre pays comme rarement dans sa longue histoire. Je rappelle que le Secours Populaire est né en 1946, hein, donc voilà. La Croix-Rouge et la Fondation Abbé Pierre leur emboîtaient le pas. Le constat est en fait sans appel, la pauvreté et la misère augmentent en France de façon plus que visible et inquiétante. Cette donnée aurait dû être le centre de gravité de la réflexion actuelle. Mais c'était sans compter sur la capacité des riches de détourner l'attention pour qu'on parle d'eux plus que de ce qui est important, en fait. Hein. Et c'est dans ce contexte-là que Bernard Arnault a annoncé que sa famille donnait 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Une cérémonie de remise a donc eu lieu en présence de la chère réactionnaire Aurore Berger, nouvelle ministre des Solidarités, mais je le rappelle, proche de la Manif pour tous quand même, faut peut-être pas l'oublier.
Elle a changé.
Ouais, bien sûr, j'y crois. De Monsieur Fils Arnaud, hein, parce que vous savez, dans les dynasties, il y a toujours Monsieur Fils, Monsieur Père.
Bah, hein, le voilà. Pouvoir passe de père en fils.
C'est quoi. Toujours comme ça. C'est parce que c'est des gens, en fait, ils ont beaucoup travaillé pour avoir ce qu'ils ont. c'est pas par héritage du tout. Et du président des Restos du Cœur. Et le piège médiatique tendu a finalement plutôt bien pris. Alors, vous savez, il y a un autre adage, hein, c'est parler de moi en bien ou en mal, l'essentiel est ce que l'on parle de moi. Donc, depuis maintenant une semaine environ, tournent en boucle toutes les indignations ou soutiens possibles suite au geste de Bernard. Nanar Arnaud. Bernard Arnaud. Je mets de côté l'excellent site d'Humour Noir qui a lancé Donne comme Bernard, hein, qui permet de ramener à ce que vous possédez le don de Bernard Arnault. Enfin, de la famille Arnault, parce que c'est même pas que oui. Bernard Arnault tout seul. Genre, pour une personne qui gagne 4000 euros par mois, c'est comme donner 29 euros. Voilà. C'est juste marrant. Mais au-delà de ça, hein, parce que moi, l'humour, il est toujours utile, on peut pas dire que le débat politique vole très très haut. C'est peut-être ça qui m'embête un peu plus. Soit on retombe sur la justification habituelle de la droite de dire « il fait un geste, il n'était pas obligé, c'est donc très bien ». Ah, voilà.
Merci donc.
Voilà, celle du centre. Cela pose des questions, mais c'est mieux que rien. Hein, voilà. Ou de la social-démocratie, s'il payait plus d'impôts, ce serait bien plus utile que ce geste de charité. Bon, voilà, vous avez fait le tour. Hein, c'est à peu près les trois axes d'indignation ou de soutien c'est qui vrai. Se trouvent en ce moment. Bref, le coup médiatique est finalement plutôt réussi. Pendant que l'on parle de Bernard Arnault et de sa famille, on oublie que c'est bien notre société, sa construction, qui entraîne dans la misère de plus en plus de monde. Ben oui, parce que je vais être un peu sadique, hein, mais c'est beaucoup plus facile de critiquer Bernard Arnault que de critiquer la société ou le capitalisme, surtout si on veut passer à la télé et être élu. Donc, je vais quand même le dire, ce sont des associations utiles, hein, les Restos du Cœur et tout. Hein. Je vais pas dire que les associations d'aide sont inutiles, ce serait dégueulasse de ma part, car ce serait faire peu de cas des dizaines de milliers de personnes qui survivent grâce à elles. Et d'ailleurs, que ce soit clair, je suis moi-même donateur, donc voilà, vous savez d'où je parle. Simplement, c'est le fait que l'on soit habitué à ce qu'elles existent et agissent qui est inquiétant. C'est en réalité une sorte de normalisation de notre monde, comme si ce qui se passait était immuable, incontournable. Comme si cela se relevait soit de la fatalité, soit du karma, des notions finalement bien risibles hein, quand on y réfléchit, parce que la fatalité n'existe pas, et le karma non plus. Et en fait, le don de Nanar, hein, parce que je vais l'appeler Nanar maintenant, on se connaît bien, donc je vais même l'appeler Nanar la menace, ça vous va ? Voilà. Donc le nom de Nanar, oui, parce qu'il a menacé d'appeler en diffamation les gens qui disaient du mal de lui. Donc,
oui, je crois qu'il est susceptible.
Il est susceptible de Nanar. Donc Nanar la menace, hein, est exactement dans cette logique-là. C'est l'idée de remplacer l'équité, la solidarité par la charité. Voilà. Et en fait, c'est l'idée de faire passer cette idée que c'est enviable, en fait, quelque part. C'est marquer le coup, expliquer que, vous voyez, les riches ont quand même un cœur. Je l'ai entendu, ça. Donc, voilà. Parce que oui, les riches ont quand même un cœur. Alors, je rappelle quand même que, d'un point de vue physique, tant que vous vivez, vous avez un cœur qui bat. Par contre, ça ne veut pas dire que... Ouais, bref. Cela permet de cacher, finalement, facilement que le monde est taillé pour eux, les riches, pour qu'ils se maintiennent où ils sont et qu'ils soient protégés de tout risque de représailles des plus pauvres. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'embête, c'est que dans le climat actuel, eh ben, c'est un truc dont on ne parle pas, en fait, ou qu'on ne met pas sur la table. Et c'est étonnant que la dimension politique du geste n'ait pas fait plus bondir. Parce que c'est un geste politique. C'est pas qu'un geste anodin. Derrière, il y a une idéologie, une envie, une façon de voir le monde, en fait. Car quand on dit il faut plus taxer les riches, comme j'entends beaucoup aujourd'hui, c'est vrai, ok, c'est bien. Mais c'est surtout admettre que la société ne doit pas changer autrement que par une taxation, et donc que les riches restent riches. Et oui, parce qu'on a beau me dire oui, mais nous, si on arrive au pouvoir, on prend 75% de ce qu'a monsieur Bernard Arnault. Ouais, alors 75% de 220 milliards, ça va. Il reste largement de quoi vivre, a priori. Hein.
Je pense qu'il ne devrait pas faire appel au Resto du Cœur.
Mais ouais, voilà, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la notion, c'est de réfléchir pourquoi il y a des riches, en fait. Et voilà. Donc, c'est là qu'on en arrive à cette question. Qui parle de changer le monde aujourd'hui ? C'est ça qui est intéressant et important. Et c'est là que il faut se poser action. Dans quel monde Dans quel monde voulons-nous vivre ? Certes, aujourd'hui, les associations d'aide, hein, elles pallient au pire, c'est ce que je disais avant, et voilà. Elles sont là en dernier recours d'une société qui semble ne plus s'offusquer que dans la 7e économie mondiale, c'est-à-dire la France, que dans un des espaces les plus riches du monde, c'est-à-dire l'Union européenne. Je rappelle que si vous additionnez toute l'Union européenne, c'est la première économie mondiale, hein, c'est pas la Chine ni les USA, c'est l'UE. Voilà. La misère et la pauvreté existent encore. C'est quand même pas très logique, quelque part. Et pourtant, tout cela relève de choix purement politiques. Quand depuis 6 ans, on ne rehausse pas les minima sociaux, quand on n'indexe pas les salaires sur l'inflation, quand on fait toujours plus de cadeaux aux multinationales et aux milliardaires, c'est bien qu'on fait le choix clair de voir s'appauvrir une bonne partie des gens. Et je le redis, c'est bien un choix politique. Voilà.
Bah oui, parce que quand on offre des milliards aux... Alors attention, je vais faire un distinguo. Je distingue le petit ébéniste qui a sa petite boîte, tout ça, qui peut même bosser tout seul, il n'exploitera personne, avec Bernard Arnault, Sanofi, enfin toutes les grosses industries, etc. Les grosses industries, elles ramassent quand même beaucoup de thunes.
Je donne le chiffre après.
Ah, ok, pardon.
Vas-y. Non, voilà, mais oui, t'as raison, elles ramassent énormément, en fait. On peut comprendre en fait que la charité, ça plaise et que ce soit pratiqué. Aux USA, d'ailleurs, elle marche tellement bien qu'elle est devenue un outil de pression politique. Notez l'ironie de ma phrase. Quand la survie de beaucoup de vos concitoyens dépend du bon vouloir des plus riches, ils peuvent, par pression, voilà, de moins ou de ne plus faire, voilà, de dire « Ah ben moi, si tu mets pas, laisse pas passer mon pipeline, tu comprends, je vais devoir arrêter de financer les hôpitaux. » Vous voyez, c'est un peu ça. Ou, voilà. Ils peuvent donc peser sur les choix politiques.
Oui, c'est des moyens de pression.
Après. C'est un moyen de pression. Et ça rejoint d'ailleurs le geste de Bernard Arnault, mais surtout la présence de la ministre au moment de ce geste. C'est-à-dire que moi, je suis quand même halluciné qu'une ministre d'État soit présente pour la remise d'un chèque par une famille à la tête de LVMH, quoi. C'est quand même pas, c'est pas anodin. Il va falloir quand même se dire que ça rentre dans un calendrier politique, dans une façon de voir la société, et que c'est loin d'être simplement un écart de conduite. C'est une vraie volonté de. Je fais une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, pour voir le poids qu'ont aujourd'hui certains acteurs, je vous invite à lire quand même les dernières déclarations d'Elon Musk et ce que deux journalistes américains ont prouvé. C'est-à-dire qu'Elon Musk a d'abord soutenu l'Ukraine en donnant ses satellites. Mmh. Et le jour où l'Ukraine aurait pu faire une avancée militaire de premier ordre, c'est-à-dire éviter que la Russie avance aussi loin que ce qu'elle était, il a coupé ses satellites parce qu'Elon Musk a estimé que c'était dangereux et que cela pouvait déclencher une guerre atomique. Donc il a coupé, ce qui a donc provoqué des centaines de morts sur le terrain, notamment dans des villes qui ont été bombardées. C'est le choix du prince. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans ce ordre d'idée-là. C'est pas que juste la charité, c'est tout ça.
Après, ça veut dire que c'est le privé qui a la main sur tout.
C'est ça. Fait. Et moi, qu'un homme seul puisse décréter que maintenant, j'aide plus, et puis là, je donne, là, moi, je donne plus, en fait, ça pose quand même de grandes questions. Je voulais prendre cet exemple parce que je le trouvais parlant. Bon, moi, mais que je sois quand même moi-même clair. Je ne suis pas plus rassuré de dire que taxer les riches serait la solution. Pour être clair, je vous le dis au-dessus. Comme je disais, c'est un refus clair de sortir du capitalisme et du poids de la bourgeoisie. Parce que finalement, le bourgeois, si vous taxez et qu'il lui reste un milliard, ça va. C'est un bois. Car taxer, pour taxer, il faut qu'il y ait des taxes. Dans une société social-démocrate, oui, s'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de social. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi réfléchir à savoir si on doit laisser perdurer les riches dans la société. Mmh. Moi, j'ai vu quand la leader des Verts avait dit « Nous n'avons pas besoin de milliardaires ». Ça avait fait un tollé. Mmh. Pourtant, je suis d'accord avec elle. On n'a pas besoin de milliardaires. Voilà. Allez, vous allez me dire, oui, mais tu veux qu'on change tout, tu veux une révolution, tu veux tout ça. Eh ben, en fait, oui. Pardon, mais oui, je suis désolé, mais oui. On peut imaginer une société différente basée sur l'équité, où chacun reçoit selon ses besoins, où les moyens de production sont collectifs et n'appartiennent à personne, et donc à tout le monde en fait. Mmh. Voilà, c'est tout simplement ça. Où tout est orienté finalement pour le mieux-être et pas pour le mieux-être de quelques-uns, mais pour le mieux-être de tous et de toutes. Voilà. Je suis désolé, mais oui, j'y crois. Alors,
t'es un utopiste.
Ben ouais, bien entendu, hein, mais c'est ma phrase d'après. Bien entendu, ça sonne comme une utopie, tu vois. Et ben tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que la politique, c'est aussi un petit peu d'utopie. Parce que si vous n'êtes, mais ouais, si vous n'êtes pas utopiste, bah vous changez rien. Et surtout, bah vous faites que vous dire, bah c'est fatalitas. Et donc, bah on est, voilà, hein, on est bien obligé de, bah non, en fait, je suis désolé, mais non. Mais c'est sans doute parce que nous avons très majoritairement abandonné cette utopie. Alors, qui n'est pas forcément la mienne, que la mienne, mais au moins une utopie d'une amélioration, qu'on s'accommode de ce monde et de ces pompiers qui tentent de contenir l'incendie, que sont les associations d'aide. Voilà. Et encore une fois, je les salue, parce que c'est un sacré boulot, mais qu'elles ne devraient pas avoir ce sacré boulot à faire. Voilà. Clairement, le débat du moment me semble finalement en dessous de tout, et de ne pas aller bien loin. Il oublie, comme je le soulignais, le fait que tout repose sur des choix politiques. Je vais donner des chiffres, parce que tu as abordé le sujet. 110 milliards de cadeaux aux multinationales. 110 milliards.
Sur combien
l'année dernière.
Ah, sur un an.
Donc voilà, 110 milliards de cadeaux.
Ça fait moins par mois quand même.
Alors là, les gens, je sais parce que j'ai vu Bruno Le Maire qui dit « Mais d'où sort ce chiffre ?» Bah, de la Cour des comptes. C'est 110 milliards entre les crédits d'impôt recherche, le fait qu'on ne paye pas de cotisations sociales sur les salaires jusqu'à 1,6 fois le SMIC, le fait qu'on puisse défiscaliser certains acquis sociaux, des choses comme ça. Et en fait, en bout à bout, ça fait 110 milliards. Voilà. C'est juste énorme.
D'ailleurs, je vous rappelle, 110 milliards, c'est énorme.
Je vous rappelle que la Cour des comptes avait fait remarquer que ça faisait un tiers du budget de l'État, que ça faisait beaucoup quand même. Hein. Voilà.
Voilà. Mais l'argent manque. Il faut faire travailler plus longtemps les exploités. Il faut réduire les aides aux plus
c'est
pauvres.
Ça. Et on réfléchit
faire
pas.
Travailler ceux au RSA.
Et on réfléchit pas à ça. Pourtant, les chiffres, on les a parce qu'ils sont publics. Et le problème, c'est que dans le même temps, on va vous dire, on est obligé de faire ça parce qu'on a une dette et que du coup, la dette, c'est le deuxième poste de dépense de l'État. Bah, c'est pas vrai. C'est pas le deuxième, c'est même le quatrième. Parce que le premier poste de dépense de l'État, c'est le cadeau multinational. Mais ça s'arrête pas là. 96 milliards d'euros de déduction fiscale l'année dernière pour les foyers gagnant plus de 6 000 euros par mois.
Bah voilà. Parce que quand t'es à 6 000, t'es ric-rac quand même.
Et bah c'est tout ça l'argent qui manque, soi-disant. Mais l'argent manque pas en fait.
Ah non,
c'est
ouais.
Qu'on refuse d'aller le chercher pour le redistribuer.
Ah ouais, et puis j'ai presque envie de rajouter les à peu près 100 milliards d'évasion fiscale
ouais,
par
ouais,
an.
Bien sûr.
Spécifique à la France. Enfin, en fait, c'est là où tu te dis, mais en fait, les déficits, c'est parce qu'on a filé beaucoup de thunes quand même à ceux qui en avaient déjà.
C'est exactement ça.
Et qu'il y a un truc là encore, enfin, ça en retombe sur le, comme le sujet d'avant, on est dans des non-sens.
C'est un non-sens
quand
total.
On prend un pas de recul, on se dit, mais ça n'a juste pas de logique en fait.
Et c'est pour ça en fait que j'en parle, parce que je ne suis pas en train de dire que si on résolvait ce problème directement, ce serait déjà permettre qu'il n'y ait plus besoin des Restos du Cœur, des Secours Populaires, tout ça. On ne serait pas encore dans une société idéale, mais on serait dans une société en fait, où on n'aurait pas des tas de bénévoles qui s'échinent tous les jours à tenir à bout de bras des gens qui sont en train de s'effondrer. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Parce que moi, j'aime bien hein, quand on me parle des Restos du Cœur, du Secours Populaire, tout ça. Moi, je connais des gens qui sont au Secours Populaire et des gens qui sont très proches. Et je vois le boulot qu'ils font et je sais ce qu'ils font. Et moi, je sais à quel point ça pèse sur leurs épaules de devoir porter des gens toute la journée. Je sais que ça les use physiquement et mentalement parce que c'est pas facile. Et tout ça, en fait, on le délègue tranquillement parce qu'on se dit allez c'est pas grave c'est loin sauf qu'en fait c'est pas loin
puis ah bah, voilà. Bah non eux ils sont confrontés direct et ils voient directement la hausse de la pauvreté la hausse du nombre de demandeurs et de demandeuses etc enfin c'est oui c'est un peu le premier
c'est le filet quand on tombe en fait hein, voilà. Donc non ce qui manque c'est finalement une volonté collective pardon, de changer le monde, les choses et les rapports sociaux. C'est ça en réalité qui manque aujourd'hui. Et quelque part le premier problème que l'on a en face de nous est dans la glace le matin. On fait quoi pour que ça change? Voilà. Parce que oui tout seul on peut pas, mais à des millions on peut. Bon voilà, donc en fait, peut-être falloir à un moment donné qu'on se réveille et qu'on se dise, ben en fait, faut peut-être qu'on arrête d'attendre, peut-être qu'il faut qu'on commence à faire et en faire différemment, autrement, dans les interstices. Comme
ouais, et puis oser, non mais même ne serait-ce que oser s'imaginer autre chose.
Ouais, déjà
en
ça.
En fait, moi, c'est vraiment c'est idiot. Alors peut-être que ça représente rien pour les plus aguerris et les plus radicaux, mais déjà oser imaginer autre chose.
Du désir.
Mais oui, en fait, du désir, du rêve, oser se dire que et puis. En fait, ceux qui nous ont précédés, en fait, s'ils n'avaient jamais eu de rêve et d'utopie, Ben en fait, on serait encore à, les gosses bosseraient encore, y aurait plein de trucs qui iraient pas, quoi.
Ben, les femmes n'existeraient toujours des biens meubles comme les
enfants.
C'est
ça, enfin, tu te dis, mais oui, en fait, c'est parce qu'ils ont osé imaginer autre chose que leur réel, que les politicards leur servaient, en fait.
Ils ont un peu désobéi.
Ah ouais,
peut-être historiquement il y a un lien. Donc je sais, c'est encore une chronique que certaines personnes diront excessive et donneuse de leçons, blablabla, blablabla, sans doute. Mais moi j'en ai marre d'entendre « aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid ». Voilà, c'est la fameuse chanson des enfoirés. Déjà parce que très rares sont ceux qui prennent le droit d'être pauvres. Hein, donc je vais rappeler quand même que c'est plus généralement subi hein, quand même la pauvreté. Oui, cette chanson en fait elle est un peu ridicule sur ce point-là. Alors je vous rappelle juste qu'il l'a écrit en une nuit machin, mais que cette phrase elle est complètement débile. Aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Ben, en fait généralement quand on a faim et qu'on a froid on prend pas le droit d'eux en fait. Hein, c'est qu'on nous impose de l'avoir.
Ouais, je comprends autrement. Moi.
Mais moi aussi, mais c'est je fais de la provoque, tout ça. Je suis un vilain garçon.
Oh là là.
Mais en prime, non, mais en prime, parce qu'en fait, moi, le charity business de TF1 et des enfoirés, ça commence aussi un peu à me fatiguer et ça me pose un problème parce qu'en fait, c'est censé être une sorte de solution miracle à tous les problèmes de la Terre. Moi, je rappellerai juste, et j'aimais pas spécialement Coluche, bon, je le dis. Par contre, quand il a fait Les Restos du Cœur, moi, je me souviens, pas de mémoire parce que je l'ai revu, c'est 85, j'avais 8 ans. Non, c'est juste que quand on le revoit, il le dit dans les interviews, il dit, c'est pour une fois, ça doit pas durer, c'est une aide ponctuelle parce qu'il y a des gens qui sont dans la galère, machin et tout. Sauf qu'en fait, on a institutionnalisé ça. Et en réalité, c'est ça la problématique. Et je pense qu'on est en train, en France, qui est tout le temps en train de dire on ne veut pas devenir les États-Unis, en fait, on est un peu en train de glisser vers cette notion-là où le charity prend le pas sur le solidarity, comme on dit aux US.
Je pense depuis un petit moment déjà.
Et n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a des gens dans les rues aux USA qui crient more solidarity, less charity. Et c'est pas pour rien.
Et voilà. Très bien.
Et moi, je vous propose de pousser les meubles. On va mettre de la musique, ça va bouger.
Allez.
Causerie au 102.2 ou sur Radio Canu. Ou sur radiocanu.org. Oui, c'est ma langue, elle a chourché. On vient de s'écouter Troye Sivan, avec Rush. Voilà. Et juste, je vous invite à aller voir le clip, parce que c'est un clip qui est très, très, très décadent. Il y a plein de gens, ils s'aiment, ils s'embrassent, ils baisent, enfin, ils font des trucs ouf, c'est pas bien.
Oh là là.
Et comme ça a foutu au PLS tous les réacs de la Terre, bah, c'est cool.
Donc, voilà. Faites-le entendre danser dessus.
Exactement.
Affinité.
Et vraiment, c'est un très bon titre.
On passe au bref.
Ouais, et ben, moi, je vais annoncer donc la Texploitation. Voilà, c'est pas facile à dire. Ouais, bon, je l'ai dit. Donc, c'est pour un usage critique des technologies et ça va se passer du 14 au 17 septembre à l'Amicale. Et c'est un grand week-end de projections, discussions, présentations d'ouvrages, concerts et performances sur les enjeux technologiques. Hein, voilà, c'est à l'Amicale du futur parce que c'est le vrai nom du bar, ça tombe bien. Pour bien démarrer la rentrée, en fait. Et c'est un peu l'idée de d'interroger notre rapport à la technologie, nos connaissances, le fait d'utiliser des choses qu'on ne sait pas toujours comment ça marche et que ce serait bien qu'on sache comment ça marche et à quoi ça sert. Voilà, et donc du coup, ils font ça à l'Amicale du futur qui se trouve 31 rue Sébastien Griff dans le 7e à Lyon. Et il y a un site dédié, je crois, mais je ne le retrouve pas. Alors bon, voilà.
Puis c'est un cycle, non ? Il n'y a pas plusieurs soirées sur.
Ouais, c'est du 14 au 17. Donc il y a des après-midi, il y a des soirées, il y a des projections, il y a des conférences, il y a des shops aussi où on apprend à faire. C'est-à-dire, comment je mets un VPN sur mon téléphone portable pour éviter qu'on puisse me pister ? Enfin bon, des trucs comme ça. Voilà.
Ok. Et ben le rendez-vous suivant, c'est jeudi 14 septembre à 19h. Cette fois-ci, c'est du côté de la librairie La Griffe, qui se trouve toujours au 5 rue Sébastien Griff dans le 7e arrondissement. Et en fait, c'est la diffusion du document sonore Enfermé nulle part en présence des réalisateurs et réalisatrices Nausicaa Price et Antoine Boujard. Et juste pour vous décrire le truc, c'est document sonore immersif à l'intérieur des zones d'attente, des lieux méconnus au sein des aéroports et des ports où sont enfermées les personnes étrangères en instance de renvoi à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire français. Donc, si vous voulez participer à cette soirée qui aura donc lieu jeudi 14 septembre à 19h à la librairie La Griffe, eh ben, il faut s'inscrire sur un petit lien que vous retrouvez sur Rebellion. Vous allez dans l'agenda, vous allez regarder le jeudi 14 et vous trouverez cette soirée et donc ce lien en fin d'article pour s'inscrire, pour aller écouter toutes et tous ensemble ce reportage et voir justement à quoi ça ressemble ce nulle part.
Et pour dévoiler un truc assez secret, vous savez que le Canu Info du jeudi a annoncé qu'il n'était pas là la semaine prochaine, car nous serons le 14 à 19h, et il y a de grandes chances que vous ayez aussi ce reportage sur les ondes de Radio Canu.
Ah oui ?
Ouais, c'est en cours de discussion tout ça. Voilà.
Ok. D'accord. Je sais pas.
Ben ouais. Okay. Qu'est-ce que tu veux ? Toujours sur la première sur la faute, non. C'était
RSC. Ouais, on va le faire taire.
Par contre, c'est vrai. A priori, c'est possible. Donc, voilà.
Ok. Ce serait d'accord. Plutôt cool. Ça serait carrément cool. Voilà, je crois qu'il est l'heure de se quitter. En plus, quasi à l'heure, c'est formidable. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain, 22h, 23h sur l'antenne de Radio Canu.
Et sans Clara.
Évidemment.
C'est vrai.
La meuf, elle vient.
J'ai fait une brève apparition. Ouais.
Oh là là, c'est incroyable, cette technique de communication est incroyable, vraiment.
Mais elle a compris que dans une société où l'offre est importante, il faut savoir créer le manque.
Ouais, c'est vraiment incroyable, waouh, bravo et balèze, tu vas tout nous apprendre. Donc nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, 22h, 23h, sur 102.2 ou sur radiocanu.org. Je crois qu'on se quitte en musique et c'est Clara qui nous annonce ça.
Oui, c'est ça, c'est Toulens avec le titre Healing.
Là aussi. On va bouger. Hein.
Ah, c'est pas si.
Ouais. Bon, je vous laisse voir.
On peut se le dire, quoi. Enfin, bref.
À la semaine prochaine.
Et des bisous. Et puis à dans 15 jours, Clara.
Oui. Portez-vous bien et des bisous.
Des bisous.
Ciao.